Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ah, quel bonheur de présenter les vraies voix un jour où Rémi André, pardon, nous annonce du beau temps. Les vraies voix avec, allez, on va dire trois vraies voix solaires aujourd'hui. Pas Thierry, hein, solaire, S-O-L-A-I-R-E-S, comme les lunettes ou la crème. Vous l'avez entendu, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Libre Propos d'un Inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir Philippe. Le terme solaire, bonsoir, vous va bien, vous êtes un peu le roi soleil des vraies voix, je trouve.
Ah, si ça pouvait être vrai, mais je suis pas assez vaniteux pour ça, j'espère.
Non, mais ça vous irait bien. Vous aussi, vous êtes très solaire aussi, Marc Varneau.
Je vous remercie, Philippe. Merci.
Entrepreneur.
Merci.
Ça va, Marc? Content de vous revoir.
Ah, quoi, en pleine forme.
Et puis en plus, il fait beau, c'est parfait.
Il fait beau, oui.
Et on attend une troisième vraie voix, Céline Pina, qui a eu un problème de train. Le seul souci, c'est que si le train marchait uniquement à l'énergie solaire, ceci explique peut-être son léger retard. Elle va nous rejoindre dans quelques minutes. Nos deux sujets des vraies voix, 17h30, multiplication des vices de procédure, la loi donne-t-elle trop de droits aux délinquants ? Bon, pour le moment, le sondage vient d'être mis, on peut dire que ce n'est même plus un score brejnevien mais nord-coréen, puisque vous êtes 100% à dire oui, c'est digne d'un sondage sur Radio Pyongyang. À 18h30, notre grand débat. Accord PS-LFI, est-ce la fin de la social-démocratie ? Vous êtes 89,7% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux, comment vont les vraies voix du jour ?
Mais elles vont le mieux possible, mon cher Philippe, en ce qui me concerne. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver un vendredi soir en plus, avant la fin de la semaine, le moment agréable où on se repose, où on se souvient avec nostalgie des vraies voix de la semaine. Voilà.
J'ai eu peur que vous me disiez, j'aime bien vous retrouver le mercredi soir lors d'un dîner, ça m'a rappelé un film qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années. Ça va, Marc ?
Parfait, tout va
Allez,
bien.
Pour conclure la semaine, j'ai fait beaucoup de coups de gueule cette semaine, j'ai envie de faire un coup de gueule qui fait un peu cocorico, ça vous va ?
Allez-y.
Eh bien, c'est parti.
Ça plane pour moi.
Ah, ça rappelle des souvenirs, ça.
Oui.
Philippe Bilger, vous avez dansé sur Plastique Bertrand à l'époque, je parie.
Non, mais j'ai adoré quand il est venu aux vraies voix, ah, il était très sympa.
Ah, il est extrêmement sympathique, vous aimiez bien Ça plane pour moi.
Oui.
Tu planétaire, qui a même été classé dans le top 40 américain.
Waouh.
Ce qui est très rare pour une chanson qui ne soit pas en anglais. Alors, je vais faire un cocorico, un bravo. Ça plane pour moi. Pourquoi ? Parce qu'un avion, c'est fait pour planer. Enfin, c'est fait pour voler, pour planer uniquement en cas de danger imminent ou au cas où il puisse plus voler. Et c'est la très bonne nouvelle chez Airbus. Alors, Airbus, il y a beaucoup de sites de production, notamment Toulouse. On salue les Toulousains. Et les ventes d'A320, c'est-à-dire la famille monocouloir du 318, 319, 320, 321, les commandes sont tellement bonnes qu'à la fin 2021, Airbus produisait 45 A320 par mois. Et là, ils vont passer à 75 avions par mois. C'est-à-dire 5 tous les deux jours, en clair. 2,5 par jour. Alors, inutile de dire que c'est très bon pour l'emploi, parce qu'un avion, ce n'est pas que l'avion, c'est également les sous-traitants. C'est des produits à très, très, très forte valeur ajoutée. C'est des produits qui font de l'emploi hyper qualifié et de l'emploi moins qualifié après une formation, parce qu'il faut rappeler qu'Airbus et les sous-traitants forment leurs salariés, ce qui est quand même très important. Et ça va donner beaucoup de boulot, évidemment, à Toulouse, qui fait une partie des A320, à Hambourg, enfin de la famille A320, qui fait une autre partie. Et également, alors là, on pourra dire pour les esprits chagrins, à Mobile aux États-Unis et à Tianjin en Chine, mais les usines de Mobile et Tianjin ne sont que des usines d'assemblage. Les pièces sont fabriquées en Europe, sauf les réacteurs quand c'est l'usine de Mobile, parce que quand c'est des Safran, enfin les comment ils s'appellent, les General Electric Snecma maintenant, la fusion, ils sont faits aux États-Unis parce qu'ils ont une usine pour Boeing là-bas également. C'est bon pour la balance commerciale, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour le moral. Mon cher Philippe Bilger, je suis sûr que ça vous donne envie de vous jeter dans un avion.
Absolument, d'autant plus que je trouve, Philippe, et vous savez que je n'abuse jamais de la flagornerie à votre égard, que vous êtes plus talentueux encore dans l'enthousiasme que dans l'indignation. Continuez comme ça.
Oui, alors je voulais vous dire, si l'OM s'était qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe, ça aurait été mon coup de cœur, mais malheureusement, ils se sont fait éliminer, donc on a parlé avions, ce qui est très bien. Marc Varnaud, c'est une bonne nouvelle quand même. 75 avions par mois, enfin un seul type d'appareil.
Hein, c'est une très bonne nouvelle, mais tout à l'heure, j'aurai l'occasion de parler de la mondialisation et de la réindustrialisation. Et moi, je vais m'intéresser à tout ce qui n'est pas, effectivement, industrie aérienne et autres, qui sont des espèces de symboles dont on parle tout le temps. Je suis ravi pour Airbus. Mais
et les sous-traitants, parce qu'il ne faut pas les oublier.
Et les sous-traitants, absolument. C'est une grosse industrie. C'est une industrie, comme vous l'avez dit, effectivement, à valeur ajoutée. Mais l'industrie en France, c'est aussi beaucoup d'autres entreprises dont on parlera tout à l'heure.
Eh bien, on va en parler tout à l'heure. Les vraies voix, 17h10 à 17h30, notre premier débat. Multiplication des vices de procédure. La loi donne-t-elle trop de droits aux délinquants? Ça a un peu bougé. Bon, ça ne pouvait que bouger à 100%, vous me direz. Vous êtes désormais 98,8% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pilet et Marc Varnaud. C'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste.
Et mon cher Philippe Bilger, on était un peu obligé de lancer votre tour de table de l'actualité. Déjà, on sait que vous aimez bien Jacques Dutronc. On aime tous Jacques Dutronc. D'ailleurs, vous voulez parler de la pureté des principes socialistes ou sauver les meubles, Créon ou Antigone?
Voilà. En effet, Philippe, je trouve que depuis quelques jours, on traite avec trop de dérision l'accord entre le Parti socialiste et ce qu'il en reste et la France insoumise. En effet, comme vous l'avez très bien dit, j'ai envie de non pas défendre Olivier Faure, mais de montrer que peut-être il représentait une phase de réalisme et de pragmatisme qui s'oppose en effet à l'attitude un peu confortable des éléphants qui, eux, célèbrent, respectent, voudraient maintenir la pureté des principes socialistes, alors que le PS a fait un score lamentable à cause d'Anne Hidalgo. Donc, en effet, Olivier Faure peut être critiqué, mais s'il n'avait pas accepté cette discussion qui parfois tourne à son désavantage, je crois que l'EPS n'aurait plus eu l'ombre d'un député, ou en tout cas pas plus de 10 députés. Et donc je le verrais dans la veine, comme vous l'avez très bien dit, plutôt d'un Créon, un pragmatique qui fait ce qu'il peut, qui sauve les meubles, qui appréhende la réalité et qui tente de la maîtriser. L'autre côté, on a donc des éléphants qui peuvent s'abandonner à la pureté socialiste en disant « c'est scandaleux, on aurait dû respecter notre identité, mais on n'aurait eu plus rien ». Donc je le dis avec beaucoup de modestie et de prudence, je pense qu'il ne faut pas être trop injuste avec Olivier Faure.
Marc Varnaud, je vais faire un très mauvais jeu de mots, allez-vous prendre la défense des éléphants ?
Je ne vais peut-être pas prendre la défense des éléphants, mais par contre, je vais rappeler quand même que la France insoumise, ce n'est pas un parti comme les autres. La France insoumise, c'est l'extrême-gauche au sens sémantique du terme. C'est un parti dont on n'a absolument pas parlé du programme. On s'est intéressé exclusivement aux postures et aux jeux théâtraux de M. Mélenchon pendant la campagne. On ne s'est pas intéressé à ce qu'il y avait derrière. Mais c'est l'ultra-gauche. C'est-à-dire le Parti Socialiste qui vend son âme et qui finalement abandonne Jaurès pour adopter Chavez. Moi, franchement, ça ne m'amuse pas du tout. Parce que autant on sait que le tapinage électoral est un sport national et que la veille des législatives, ça s'impose aux partis qui ont fait des scores effectivement plus que lamentables aux élections. Mais pour moi, le Parti Socialiste, il a signé son arrêt de mort. Et maintenant, j'aimerais voir ce qui va se passer réellement législatif. Parce que faire voter un électeur de centre-gauche pour M. Mélenchon, ça me paraît être plus compliqué encore que de faire voter quelqu'un de centre-droit pour Mme Le Pen.
Céline Pina vient d'arriver avec son côté Wonder Woman, puisqu'il y a eu un problème de train. On parlait du Parti Socialiste. Vous avez bien connu, vous avez été croyante et pratiquante à l'époque. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ni croyante ni pratiquante. Est-ce qu'on est dans la pureté des principes socialistes avec l'accord de cette nuit, même si on va en parler dans notre grand débat, vous le savez, à 18h30, ou dans le principe de sauver les meubles ?
Non, on appelle ça même plus prosaïquement à la soupe, c'est-à-dire que c'est même pas les meubles.
J'allais dire, comme chantait Brassens, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord.
Non, mais tout à fait, parce qu'en fait, sauver les meubles, ça peut être faire des compromis dans le but de sauver l'essentiel. Là, c'est sacrifier l'essentiel pour sauver les postes d'une poignée de parlementaires qui ne représentent plus grand-chose. Donc, sincèrement, à ce stade-là, c'est une mort cérébrale et on a envie de dire, je pense qu'il est temps de débrancher.
Philippe Bilger, est-ce que quelque part, Marc Varnaud m'a mis quelque chose à l'oreille, il dit là, il y a une alliance avec l'extrême-gauche, depuis 40 ans on nous parle du fameux cordon sanitaire avec le Rassemblement National, on rappelle quand même que ça ne s'est pas conclu, mais le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, était dans les négociations. Comment est-ce que vous expliquez le deux poids deux mesures qu'il doit y avoir un cordon sanitaire à droite et pas à gauche?
Vous voulez, pour une D'abord, raison... mon cher Philippe, je suis ravi de revoir Céline Pina ce soir. Je craignais qu'elle ne soit pas, qu'elle soit beaucoup plus en retard.
Non, j'ai des choses importantes ce soir.
Là, en ce moment, voilà. la séduction pour les nuls écrite par Philippe Bilger.
Paradoxalement, j'y vois un avantage, même si je trouve que Céline, et elle est beaucoup plus légitime que moi à parler du Parti Socialiste, même si elle l'a quitté, est un peu dure. Je ne pense pas qu'il y ait que des intérêts de soupe dans cet accord. Il y a peut-être, en effet, je réaffirme mon point de vue, une volonté de sauver les meubles parce qu'on est au fond du trou. Mais deuxième élément, Philippe, vous avez pointé un élément très important. J'espère que cet accord entre la gauche... ce qui reste encore d'une vague social-démocratie avec l'extrême-gauche nous évitera dorénavant les procès insupportables dans les alliances qui ne seraient pas si absurdes que cela entre la droite extrême et la droite républicaine. Je crois que ça a été dit par un article excellent de Dominique Régnier aujourd'hui, et je vois avec plaisir que le grand esprit que vous êtes rejoint le sien, mon cher Philippe.
Alors, j'ai pas encore vu la tribune de Dominique Régnier. Comment est-ce que vous expliquez ce deux poids
deux
mesures ?
Mais c'est encore mieux ! Vous l'avez inventé !
Marc Varnaud.
Comment j'explique ce deux poids deux mesures ? C'est un calcul purement électoral, dans lequel on va jouer la culpabilisation à fond de l'extrême droite en version Seconde Guerre mondiale, pour parler très clair, versus l'extrême gauche, qui, elle, est exonérée de Pol Pot et de Staline. Je résume très vite, mais c'est ça. C'est-à-dire que, quelque part, on a une extrême gauche qui devient acceptable, parce que, sur le fond, on ne la présente pas comme extrême gauche, et on a une extrême droite qui est inacceptable, parce qu'on la présente avec, en permanence, ce miroir de
la Seconde Guerre mondiale.
Exactement. La réalité, c'est que la gauche, aujourd'hui, et l'extrême gauche, qui représente au maximum 30% des Français, ils vont aller unis aux élections législatives, alors que la droite... et l'extrême droite va y aller complètement divisée. Donc c'est un calcul totalement politique, cynique, et c'est aller à la soupe pure et dure.
C'est la soupe, Céline Pina. Et ce deux poids, deux mesures, vous en pensez quoi ?
Alors, la première chose, c'est que oui, il y a une forme d'injustice, entre guillemets, mais il y a aussi une réalité qui est que malgré tout, les communistes en 1941 rejoignent la résistance et vont bâtir tout un récit autour du parti des 60.
Parce qu'avant, ils n'étaient pas résistants. Je rappelle que Thorez a déserté dès fin septembre, début octobre.
De 1939 à 1941, l'URSS est alliée d'Hitler et les communistes ne sont pas résistants. À partir de 1941, les choses changent et il faut reconnaître que c'est aussi le moment où on va rentrer dans le dur en la matière et qui vont réussir à construire un récit autour du parti des 75 000 fusillés, même s'il y en a eu moins totalité. Mais en tout cas, ce récit est fondateur et va marcher. Là où l'extrême droite est collaborationniste. Elle n'est pas stricto sensu nazie, mais elle a collaboré avec les nazis.
Je rappelle quand même, je vais citer le général de Gaulle dans les mémoires de guerre. À Londres, en juin 1940, il n'y avait que la cagoule et la synagogue. Je cite le général de Gaulle.
Mais ça n'est pas resté comme ça. Et en tout cas, dans la mémoire collective, ce qui s'est imprimé, c'est l'extrême droite, c'est cette extrême droite-là. Et il se trouve que si des gens d'extrême droite ont été résistants, parce que c'est une réalité, les fondateurs du FN comptent quelques nazis purs qui ont entaché la légitimité du mouvement. Donc il y a aussi une réalité qui fait que ce qui se passe loin de chez vous est toujours plus supportable que ce qui se passe chez vous.
On a été très long, on passe au tour de table de Marc Varnaud qui veut parler de la remise en cause de la mondialisation.
Oui, effectivement. Il y a, je crois que ce qui s'est passé, notamment en Ukraine, nous permet, enfin, après la crise du Covid, remet quand même en perspective un certain nombre de choix qui remontent finalement à 1995, date à laquelle on a créé l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. On nous annonçait à l'époque que c'était merveilleux et que c'était pour le bien de la planète, de l'humanité, des Français comme des Chinois. La réalité, c'est que 25 ans après, le PIB français, européen, américain, a été multiplié par 2. Dans le même temps, le PIB chinois a été multiplié par 16. On est passé de 23% d'emplois industriels à 10%. Et pendant ce temps-là,
En France.
Pendant ce temps-là, bah, tous ces chômeurs, c'est autant de cotisations qui en moins pour l'État et c'est autant de frais sociaux pour les caisses publiques. Et cette mondialisation, aujourd'hui, on comprend bien le problème face à la pénurie de masques ou face au problème du blé ukrainien ou russe, face au problème du gaz. On se rend bien compte que d'avoir voulu réorganiser le monde en spécialisant tel ou tel pays, eh ben, la première étincelle...
C'était la théorie d'un économiste anglais, David Ricardo.
C'était
la théorie de l'avantage comparatif.
Oui, enfin c'est l'OMC également. On nous a expliqué qu'on va garder la valeur ajoutée et que tout ce qui a faible valeur ajoutée, eh ben, ce sont les pays émergents qui vont s'en occuper. La réalité, c'est que, je suis désolé, mais la police chinoise, elle ne roule pas en Peugeot. Mais par contre, les grands crus de Bordeaux, on les a vendus à des Chinois et on a vendu des entreprises stratégiques à des groupes étrangers. Et aujourd'hui, ça nous fait défaut. Juste un exemple, on a trouvé moyen en France de vendre le dernier fabricant de munitions, Manurin.
Oui.
Aux Émirats Arabes Unis.
Oui.
Et l'année suivante, on a expliqué à Vernet Caron, qui est l'un des derniers armuriers français qui espérait obtenir un marché public de l'armée française.
Pour les fusils d'assaut, les remplaçants des FAMAS.
Non, c'était la fois d'après. C'était les fusils de tireurs d'élite.
D'accord, donc les remplaçants des FRF2.
Exactement. Et la DGA leur a expliqué qu'ils vous préféraient avoir un fournisseur qui fournissait tout. Ben forcément, il n'y avait plus d'industrie de munitions en France. Donc Vernet Caron s'est associé à un Norvégien. Et ils ont perdu. Donc cette mondialisation-là, je pense que pour la France, elle n'a pas été bénéfique. Et quand aujourd'hui on parle de réindustrialisation, et c'est là où je voulais en venir, et bien pour réindustrialiser, il faut quand même avoir un tissu de sous-traitance, une organisation industrielle qui fonctionne. Et nos politiques n'expliquent jamais ça, parce qu'ils pensent que ça fait rêver de dire on va remettre en France nos industries qui ont été renvoyées à l'autre bout du monde. Et bien c'est faux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il faut former les gens
oui.
qui aujourd'hui ont 90 ans pour ceux qui fabriquaient des jeans dans les années 60, qui sont à la retraite. Il faut des écoles, il faut financer tout ça, on l'oublie, mais il faut financer des filières qui sont parfois très très lourdes. Et le système de financement en France n'est pas adapté à ça. Et donc il y a une vraie question.
Vraie question, Philippe Bilger, vraie question.
Marc Varnaud est vraiment très armé sur le thème de la mondialisation.
Hein, ah là, vous répondez en rafale.
D'abord, il y a eu une époque où, évidemment, la mondialisation était perçue comme heureuse. Il y a eu quelques intellectuels français qui se sont fait une spécialité de tenter de le démontrer. Et aujourd'hui, elle est sinon honnie, du moins battue en brèche. Moi, je suis incapable de la trouver, mais je pense profondément qu'il faudra peut-être arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, à une forme de synthèse entre la mondialisation paradis et la mondialisation enfer. Mais encore une fois, je propose une piste que je serai incapable d'emprunter.
Céline Pina,
conclure. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'à un moment donné, on a pensé que l'économique allait résoudre tous les problèmes du politique. Et c'est un petit peu l'idéal de l'Europe qui s'est bâti en se disant si on enchevêtre profondément les intérêts économiques, il n'y aura plus jamais la guerre sur le continent. Or, on est en train de se rendre compte que ce n'est pas le cas parce que pourtant, on a des intérêts économiques entrelacés avec la Russie. Mais la logique de puissance, la logique impérialiste, quand elle se déclenche, elle écrase tout sur son passage, et c'est le politique qui arrive en premier lieu, et c'est en train de faire éclater toute cette logique de mondialisation où on voyait le monde comme un vaste marché dans lequel on devait aller faire nos courses. La question aujourd'hui, c'est que c'est pas avec des licornes qu'on réindustrialisera le pays. Les licornes, ça ne se reproduit pas entre elles. Effectivement, il faut ramener de l'industrie lourde. On ne pourra pas tout ramener. Il y a quand même un minimum, malgré tout, de répartition. Là, on en est quand même très loin et on n'a pas fait le premier pas pour cela.
Très, très court, Marc Varnaud, pour le mot de la fin.
Oui, je pense que, si vous voulez, la mondialisation, on a juste oublié à l'époque qu'il ne fallait pas avoir 400 000 normes en France. il ne fallait pas avoir 480 impôts et taxes, il ne fallait pas avoir 49% du PIB qui passe en impôts, et que toutes ces données-là, finalement, eh ben, elles nous mettent pas un boulet, mais un super boulet au pied. Et quand les produits du monde entier rentrent avec zéro droit de douane aujourd'hui en France, oui. et que les industries françaises sont, elles, soumises à des normes par centaines de milliers...
Et à des droits de douane très élevés dans les pays étrangers.
Par centaines, eh ben, effectivement, ça rend les choses très compliquées.
Les vraies voix, 17h27, tout de suite notre premier débat. Multiplication des vices de procédure, la loi donne-t-elle trop de droits aux délinquants ? Vous êtes 96,3% à dire oui, vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On va en débattre avec Maître Carbon de 16, avocat pénaliste.
Ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ah oui, c'est du rap, la chanson, les paroles veulent plus dire « nique la police ». Et on peut dire que ça doit être frustrant d'être policier ou gendarme, de traquer des délinquants et criminels et de les voir repartir libres. Les cas se multiplient ces dernières semaines en France. Allez, cette semaine, Toulouse, saisie de 25,5 kilos de résine de cannabis. Comme le chien des douanes a dégradé le colis, les mesures conservatoires prévues n'ont pas pu être respectées, le trafiquant est libre. Lille. 4 cambrioleurs interceptés en flagrant délit. Erreur des policiers qui ne les placent en garde à vue qu'au bout de 45 minutes. Délai trop long selon la procédure. Placés en détention provisoire, ils sont tous libres aujourd'hui et étaient bien évidemment multirécidivistes. Nantes, un des mis en cause dans la fusillade du Moonlight qui avait fait un mort a vu le délai de 20 jours. Pour l'examen de sa demande de mise en liberté dépassée, il est libre. Versailles. Pour un appel non transmis et qui n'a donc pas été étudié dans les délais, le violeur présumé d'une personne particulièrement vulnérable a été remis en liberté. Bref, c'est compliqué d'être policier ou magistrat en France en 2022 et de chercher à mettre des voyous hors d'état de nuire, d'où notre premier débat. Multiplication des vices de procédure, la loi donne-t-elle trop de droits aux délinquants ? Et vous êtes 96,5% à dire oui. Avec nous, Maître Carbon de 16, avocat pénaliste. Bonsoir Maître.
Bonsoir monsieur.
Quand on voit toutes ces affaires, on se dit que la loi protège bien les délinquants et criminels en France.
Je ne pense pas, très sincèrement. Je pense que la question que vous posez sur le vice de procédure, pour étonnant que ça puisse vous paraître, renvoie au rôle de la procédure pénale. C'est-à-dire quand un individu est mis en cause, quelle est la règle du jeu à respecter ? Par les services de police pendant l'enquête, par les juges, ensuite le juge d'application des peines pendant la peine, etc. Le délinquant, d'habitude, le criminel, savent très bien se défendre parce qu'ils ont intégré ce que vous pourriez définir comme des failles. La procédure pénale, elle défend d'abord l'honnête homme, le citoyen, d'une mise en cause qui ne serait pas conforme à la vérité. C'est-à-dire elle le protège de l'erreur policière ou de l'erreur judiciaire. Et c'est le citoyen qui est d'abord protégé par le code de procédure pénale. C'est-à-dire quelles règles doivent être respectées ? J'ai entendu votre liste impressionnante. Hein. À qui incombent les fautes ? Pas à la loi qui a prévu, par exemple, un délai de notification du placement en garde à vue. Elle est imputable, le défaut de respect de la règle est imputable au policier qui n'a pas respecté cette règle, que pourtant il connaît.
D'accord.
Vous voyez ? Donc il ne faut pas se tromper sur l'utilité de la procédure pénale, il ne faut pas se tromper sur la signification du respect des formes qu'impose la loi, il faut s'interroger sur l'absence de respect de ces formes par certains, qui n'est pas forcément imputable à un mauvais esprit, elle peut être aussi imputable à un manque de moyens, par exemple.
La parole est à monsieur l'avocat général Philippe Bilger. Ça fait longtemps qu'on vous a plus appelé comme ça. Hein.
Mon cher maître, vous savez bien que je ne vais pas être d'accord avec vous, hein, parce que vous développez excellemment le point de vue de l'avocat. Moi, je ne vais pas développer le point de vue de l'ancien avocat général, mais celui du citoyen que j'ai toujours cultivé. Je pense que la question de Sud Radio est très pertinente. En réalité, j'ai toujours considéré que nous avions une définition de l'état de droit beaucoup trop sophistiquée d'abord, à tendance fortement bureaucratique, et d'autre part qu'elle est uniquement destinée à préserver les intérêts ou la sauvegarde des personnes soupçonnées ou incriminées authentiquement. Et donc je pense que À partir de là, dans la mesure où on n'est pas capable de concilier dans un état de droit l'efficacité sociale et la sauvegarde individuelle et la société des honnêtes gens avec, évidemment, des garanties à donner aux transgresseurs, on aboutit à des aberrations. Et dans la liste de Philippe David, à ma connaissance, il a oublié le dernier scandale récent qui s'est déroulé à Nancy, où un homme condamné à 20 ans de réclusion pour avoir lardé de coups de couteau une victime sort au bout de 12 ans de réclusion criminelle et commet un viol dans la foulée. Donc je crois qu'il faudrait accepter un jour de simplifier l'état de droit et d'accepter qu'il soit aussi au service de la société des honnêtes gens.
Carbon de 16.
Oui, je crois qu'il y a, voilà, dans le développement, comme d'habitude, Philippe Bilger prend des réquisitions brillantes, mais qui ne sont pas conformes à la réalité. Par exemple, ainsi a-t-il additionné à votre litanie l'horreur et le drame qui est intervenu récemment, qui précisément ne correspond à rigoureusement aucun vice de procédure, hélas. Ce sont les expertises psychiatriques et leurs qualités qui sont en cause dans cette affaire sur la remise en liberté anticipée de ce meurtrier qui lui permet de commettre ce viol atroce. Et l'importance de l'expertise psychiatrique était d'autant plus prégnante dans ce dossier que le meurtre qu'il avait été commis l'avait été à partir de 82 coups de couteau, ce qui prouve bien qu'il y avait un problème de pathologie psychiatrique dans ce dossier. Donc en tout état de cause, voulant rajouter un exemple supplémentaire, on est sorti du sujet pour venir dramatiser une question qui est beaucoup plus technique que cela. Il faut ne pas dire que ça vient, pour reprendre le terme de notre ami Philippe Bilger, favoriser les transgresseurs. Non, ça vient protéger tout le monde, tout le monde. Et je vous renvoie, cher Philippe Bilger, à l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoit que l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les mises en cause qui sont protégés, mais la procédure pénale vient également protéger les victimes. Et surtout, la procédure pénale vient établir une règle du jeu, et vous qui avez consacré votre carrière à protéger l'ordre public, Dieu sait si la règle du jeu est importante, pas seulement à raison du fait qu'elle s'inscrit dans un état de droit, elle le caractérise simplement, elle n'en est que l'illustration, mais la règle du jeu est importante parce qu'elle protège aussi l'innocent de l'erreur que l'on pourrait commettre quand on l'accuse. Et donc, si vous voulez venir dire que parce que de temps en temps, les services de police sont débordés et commettent des erreurs qui introduisent un vice dans l'instruction de la vérité et viendraient à justifier qu'on remette en cause le fait que le procès ou l'enquête ou l'instruction soit encadré par une procédure stricte, relève du sophisme.
Maître, on fait réagir les vraies voix, parce que ça a réagi aussi beaucoup au 0826-300-300, Marc Varnoux.
Ouais, bah, je crois que le problème est très différent. Vous savez, c'est un peu, pour prendre un autre exemple, c'est un peu comme dans les appels d'offres publics, c'est-à-dire qu'il faut répondre à des milliers de normes que personne ne connaît, donc vous avez une chance sur deux de faire une erreur éliminatoire. Moi, quand j'entends Jean-Michel Fauvergue, qui a été le fondateur du RAID et qui est aujourd'hui député, rappeler qu'il faut 26 à 43 procès-verbaux pour un flagrant délit, on se doute bien que si à la première virgule, et bien effectivement il y a un vice de forme, le pauvre policier, est-ce qu'il a, il mérite la Légion d'honneur s'il fait effectivement aucune erreur. Et la faute de temps en temps de procédure, là je suis pas d'accord, parce qu'il suffit d'aller regarder, mais on trouve des centaines de cas les uns derrière les autres. Un trafiquant de drogue libéré à Narbonne parce que il y a pas d'escorte pour le présenter au juge et donc il est considéré comme étant en détention abusive. À Carcassonne, un monsieur qui a fait une prise d'otage, donc là, l'honnête gens, prise d'otage, il est libéré suite à une erreur de procédure. À Montpellier, énième demande de remise en liberté, le juge ne statue pas suffisamment rapidement, enfin c'est dans les 20 jours, je crois.
Oui, c'est 20 jours. Oui.
20 jours à Montpellier, hop, il est libéré, etc., etc. Et c'est vrai que quand on entend sur ces sujets-là, pardonnez-moi, mais les représentants du syndicat de la magistrature qui disent, tel quel, on est des gardiens de la procédure, vous ne pouvez pas maintenir quelqu'un en prison si vous dépassez d'un jour ou deux l'ordre d'écrou. Enfin, attendez, dans un pays où le budget de la justice est au moins 50% en dessous de ce qu'il devrait, où on manque de magistrats, de juges, et où on empile les procédures depuis 20 ans pour les rendre de plus en plus complexes, comment est-il possible pour un policier de ne pas faire d'erreur de procédure? Et enfin, le vrai problème, c'est quel type d'erreur de procédure devrait justifier la remise en liberté? Pardonnez-moi, si à un jour près, on ne présente pas un preneur d'otage à un juge, est-ce que ça justifie de le libérer? Non, moi, c'est tout faux là-dessus.
Carbon de 16, et ensuite Céline Pina.
Alors, en réalité, on dit presque la même chose. Vous savez, monsieur, je devine sous le ton un peu agacé que vous vouliez exprimer un désaccord avec moi, mais le désaccord n'est pas loin de se résoudre.
Mon ton n'est pas agacé.
Tant mieux, je m'en réjouis.
C'est son ton naturel.
Alors, il faut s'inquiéter. Ouais. Mais en réalité, vous voyez, vous oubliez de dire, quand vous dites que l'ancien patron du RAID se plaint du fait qu'il faille démultiplier les actes de procédure dans le cadre d'une flagrance, vous oubliez de dire que ça ne doit pas être si compliqué de respecter la procédure, puisque 99% des affaires de flagrance aboutissent aux comparutions immédiates et sont jugées et sanctionnées. C'est donc bien qu'il y a l'immense majorité des policiers qui arrivent à respecter la procédure. Sur la question la plus délicate, celle de la prise d'otage et du retard de la présentation devant le juge d'instruction pour un débat concernant la remise en liberté ou le maintien, vous savez, l'immense sujet, et là vous touchez le fond du problème, c'est de savoir si on autorise les détentions arbitraires en France. Parce qu'une détention est encadrée par différentes conditions, et notamment le fait qu'elle soit ordonnée par un juge. Et s'il y a des délais qui s'imposent au juge, c'est au juge de les respecter. Et par conséquent, la sanction de l'irrespect par le juge du délai qui lui est imparti, c'est que la personne détenue est détenue sans titre. C'est-à-dire qu'on en arrive à une détention arbitraire. Et donc on en vient à l'excellente question de Philippe Bilgère, c'est dans quelles conditions voulons-nous être dans un état de droit? Voilà que nous vivons dans un pays qui se vante d'avoir supprimé la lettre de cachet. Là, il n'y a même pas de lettre de cachet, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais la personne reste détenue.
On va faire réagir Céline Pina.
À entendre, on a l'impression qu'en fait, ces règles-là sont des sortes de totems absolus qu'on ne pourrait pas modifier en fonction de la réalité et qui n'obéiraient pas à un principe qui est aussi un principe judiciaire qui est celui de la proportionnalité. Or, à un moment donné, par exemple, on pourrait très bien estimer que si un juge commet une faute, c'est peut-être à lui de la payer. Autrement dit, il y a un retard d'une journée qui ne correspond pas à un état de la procédure. C'est le juge qui est sanctionné dans sa carrière, mais pas le prisonnier qui est libéré. Puisque la culpabilité étant avérée, la personne a été prise sur le fait, à ce moment-là, il paraîtrait disproportionné de libérer quelqu'un de dangereux pour la société, parce que rappelons quand même qu'à la base, le droit n'est pas un totem, le but du droit et de la justice, c'est de protéger la société. Si à un moment donné, le droit agit contre l'intérêt de la société, alors c'est peut-être que la règle est abusive, c'est peut-être qu'il faut la modifier, c'est peut-être qu'il faut l'adapter, mais je crois réellement que l'on gagnerait tous à faire autre chose qu'un totem de la règle de droit, à l'adapter à la réalité et surtout à avoir en tête la question de la proportionnalité.
Maître Carbon de Sèche, je vous demande d'être court parce que ça réagit beaucoup au 0826-300-300.
Promis, on va faire court. le droit est d'autant moins un totem que je peux vous dire que depuis que j'exerce, c'est-à-dire depuis près d'un quart de siècle, j'en suis à une quarantaine de réformes de la procédure pénale et que je pense que, vous savez, dans ce balancier entre permissif et répressif, personne n'a jamais trouvé le bon ton. Mais quand vous dites qu'en réalité c'est au juge de payer, ça c'est un problème de l'inspection des services judiciaires, effectivement, mais certainement pas qu'on continue à maintenir, parce que s'il n'y a pas de totem, il y a quand même un sujet, c'est de savoir si vous dites que la culpabilité est établie, mais pas du tout. Il s'agit de gens qui sont en détention préventive, c'est-à-dire qui ne sont pas encore jugés.
Non mais là, tous les exemples, c'était pas le cas.
Je termine simplement, si c'est le cas, ce sont des gens en détention préventive qui ont été libérés, sinon il n'y aurait pas de débat
c'est
sur leur maintien
en détention. C'est sûr qu'un preneur d'otage, on avait peu de doute.
Ce sont des gens dont la culpabilité n'a précisément pas été établie par un jugement. Sinon, on ne serait pas en train d'enquêter et d'instruire pour savoir.
En fait, il y a peut-être juste un truc, c'est que c'est intéressant de voir que le réel n'existe que s'il y a jugement. Le réel en soi n'existe pas.
Dans quelle mesure, dans l'hypothèse où ils auraient joué un rôle, dans quelle mesure ce rôle serait avéré et quel est son degré? Donc, quand vous dites que la culpabilité est avérée, juridiquement, je vous le dis avec toute la courtoisie que j'espère vous exprimer, vous êtes dans l'erreur.
On part au 0,
je crois qu'il y a juste un truc à dire, c'est que dans ce que vous dites, le réel n'existe pas, seule la procédure crée du réel, et ça crée aussi un problème.
On part au 0,826, attendez,
je suis entièrement d'accord, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'un preneur de tâche qui est en flagrant délit, il est en flagrant délit.
On part au 0,826-300-300, direction la Gironde, bonsoir Frédéric.
Bonsoir Philippe.
Et vous pensez, comme 96,7% des auditeurs de Sud Radio, que la multiplication des vices de procédure, ça s'explique par le fait que la loi donne trop de droits aux délinquants ?
Exactement.
Et vous avez vécu des cas à côté de chez vous ? Vous avez lu dans le journal, dans Sud-Ouest, etc.
Non, pas à côté de chez moi. Moi, personnellement aussi, bien sûr. Oui, moi, avant d'être en Gironde, j'habitais en Picardie.
Oui.
Avec ma femme, on avait acheté un petit appartement, histoire de se faire un petit pécule. Et très souvent, les caves étaient visitées par des petits, pour des petits larcins. Hein. C'était voler trois roues, un vélo. Mais systématiquement, on était rappelé à l'ordre par le syndic en disant qu'il fallait systématiquement refermer les caves parce que s'il y avait un départ de feu qui venait des caves, on pouvait être nous tenus responsables. Donc à chaque fois, fallait refermer. Et une fois, on a chopé un gars. On l'a pris, on l'a enfermé un peu dans la cave, on a appelé les policiers en disant on en a pris un là, on en a eu un, donc faut venir. Il a été emmené et on nous a dit gentiment, on dit espérons qu'il porte pas plainte contre vous parce qu'il pourrait porter plainte pour séquestration.
Non mais c'est hallucinant. On va faire, il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Merci Frédéric de Gironde. Un type vous cambriole, vous l'arrêtez, vous êtes un peu costaud, vous appelez la police, vous risquez quelque chose. On est au royaume du Père Ubu, maître Carbon de 16.
Oui, en réalité, vous ne risquez rien du tout si vous l'immobilisez le temps que la police arrive.
Et que vous ripostez, là, vous risquez quelque chose.
Non plus, ça c'est de la légitime défense, si c'est proportionnel. Par contre, voilà, si vous décidez de lui tirer dessus alors qu'il est désarmé, oui, là, effectivement, vous risquez quelques bricoles.
Merci beaucoup, maître Carbon de 16. Je vais citer un chiffre. 73% des policiers souhaitent un allègement des contraintes administratives et 2/3 une réforme de la procédure pénale qui est jugée trop complexe. Philippe. Oui, Philippe Bilger, mais très court.
Juste un mot. Sud Radio rend de manière régulière hommage à maître Carbon de 16 parce qu'elle l'appelle uniquement pour les causes désespérées.
Alors, je tiens à vous dire une chose, maître Carbon de 16, vous avez dit une chose d'une grande banalité, vous avez dit qu'un propos de Philippe Bilger était excellent, et ça ne se discute même pas. Merci à vous.
C'est un pléonasme, évidemment.
C'est bien ce que je disais. Merci beaucoup, maître Carbon de 16. Verdict de notre premier débat. Multiplication des vices de procédure, la loi donne-t-elle trop de droits aux délinquants? Vous êtes 96,8% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour la chronique de Philippe Rossi.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
On est heureux de retrouver Philippe Bilger, Céline Pina et Marc Varnaud. C'est l'heure de la chronique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi.
Bonsoir à vous.
Une photo de proche d'Emmanuel Macron fait polémique.
Eh oui, une photo où l'on peut voir François Bayrou, Stanislas Guérini, Richard Ferrand et Édouard Philippe présenter les grandes lignes de la campagne de la majorité pour les législatives. Une photo qui a été prise lors d'une conférence de presse qui affole depuis les réseaux sociaux, qui a créé en fait une véritable polémique. Alors, pourquoi, selon vous? Eh bien, petit indice signé Patrick Juvet.
Oui. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui vous permet d'affirmer que François Bayrou, Richard Véran, Stanislas Guérini ou Édouard Philippe sont des hommes.
Hein. Bon, en tout cas pour Édouard Philippe, il y a la
barbe.
C'est
pour paraphraser une émission de télévision chez Daniel Schneiderman.
Si vous confondez sexe et identité de genre, sincèrement.
Exactement. Aucune parité donc, il n'y a aucune femme. C'est un quatuor exclusivement masculin qui a présenté le programme de la majorité. tollé sur Twitter et le premier qui a réagi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et oui, le patron de la France insoumise, comme d'habitude, tire plus vite que son ombre. Voici ce qu'il a tweeté. Sinistre réunion non mixte en plein virilisme du regard. L'Union populaire sera paritaire tout le temps et partout. Bim, voilà. D'autres politiques ont réagi. Par exemple, Karim Adeli d'Europe Écologie Les Verts, l'eurodéputé écologiste, a écrit ceci. Ça va les mecs, on ne vous dérange pas quand on dit que c'est pas simple pour les femmes en politique. Alors, est-ce que c'est mieux à gauche? En tout cas, c'est ce que promet Jean-Luc Mélenchon, la parité. Eh bien, par exemple, à la table des négociations pour l'Union de la gauche, les hommes étaient nombreux. Pierre Jouvet pour le PS, Julien Bayou chez Les Verts, Adrien Quatennens, Manuel Bompard pour la France Insoumise. Mais il y avait également des femmes, Mathilde Panot, encore Manon Aubry pour la France Insoumise, Sandra Régol chez Europe Écologie Les Verts. Pour l'instant, il y a une quasi-parité. Une photo doit être prise demain. Demain samedi, une belle photo de la gauche qui risque quand même d'être aussi 100% masculine si jamais elle ne regroupe que les chefs à faire à suivre. Céline Pina, est-ce que cette photo vous a choqué? Les quatre, Richard Ferrand, Stanislas Guérini, Édouard Philippe.
Alors moi, elle m'a surtout fait rire parce qu'ils tirent tous oui. La tronche. Et alors, ils sont censés, en fait, être à un mariage, certes, de raison. Donc, on se dit, ils devraient pourtant essayer au moins de... Et, mais la deuxième chose va peut-être vous surprendre. Mais dans le fond, c'est à peu près la même chose qu'avec cette histoire de Premier ministre femme. On se dit, sincèrement, qu'est-ce que je m'en fiche que la Premier ministre soit femme, homme, que ce soit une femme noire, lesbienne ou un homme hétérosexuel, blanc.
Depuis 50 ans.
Voilà, je oui. M'en fiche éperdument si la personne est compétente et fait le travail. La logique du casting contre la logique de l'intelligence et du mérite, je trouve qu'elle atteint vraiment ses limites et ça devient insupportable. D'autant que la politique des quotas fait de problématiques secondaires, le sexe, la couleur de peau et que sais-je, une identité totale, ce que je trouve insupportable et extrêmement violent en ce qu'elle nie finalement notre unicité.
Ouais, oui. Et vous avez remarqué qu'autour de cette table...
Marc Arnaud, venir
oui.
Un mot.
Oui, juste Marc Arnaud, allez-y. Je crois que cette campagne électorale, elle a quand même été merveilleuse, puisque finalement, on a passé beaucoup de temps à commenter les postures des uns des autres, les tweets, les photos. On n'a pas beaucoup parlé des programmes, on n'a pas du tout parlé d'économie. On rentre dans un nouveau monde, celui où une photo fait réagir pendant 24 heures, et puis le lendemain sera un tweet. Bon. Je le regrette, parce que le fond, finalement, il disparaît.
Oui, puisqu'on sait, par exemple, que Philippe Bilger, lui, il est non-binaire, donc ça va, c'est parfait.
N'est-ce pas? À chaque jour, sa politique.
Mais Philippe, moi, ça ne me gêne pas du tout de voir ces quatre personnalités masculines, dans la mesure où je n'ai jamais été un fanatique de la parité. Je ne verrai aucun inconvénient à un monde où il y ait plus de femmes que d'hommes dans certains secteurs, ou l'inverse ailleurs. Je trouve que la polémique est ridicule, là, franchement.
Allez, on poursuit. Avec un petit top 3, un top 3 des candidats les plus insolites qui se présentent aux législatives. Oui, parce qu'il y en a. On commence par le numéro 3, les 80 candidats que va présenter le mouvement anti-radar. Mais oui, il existe ce mouvement. Derrière ce parti, Jean-Louis Soulet, son programme prône la suppression des radars, vous vous en doutez, la fin du permis à points ou encore un prix fixe pour le sans-plomb à 1 euro le litre. À la deuxième marche du podium, on retrouve un prince. Et oui, le prince Charles-Philippe d'Orléans. Il se présente dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Le candidat qui se trouve à la première marche du podium des candidats les plus insolites, c'est une femme, porte-parole du Parti du Plaisir. Mais oui, elle sera candidate à Paris. Elle s'appelle Cindy Lee. Je vous donne son programme. Elle est favorable à la réouverture des maisons closes. Elle propose par exemple, et c'est intéressant, des cours de séduction dès le lycée. Ça peut servir à beaucoup d'hommes. Elle dit pas si l'option sera, si ça sera une option au bac ou pas. Elle
veut également interdire les... ou pas.
Voilà, on ne sait pas s'il y aura des travaux pratiques, effectivement. Elle veut également interdire les religions et supprimer les frontières.
Ah oui.
La candidate Cindy Lee qui chante également. Tiens, je vous propose d'écouter une de ses chansons, ça s'appelle Blablatage. Voilà. Bon, j'espère qu'elle fera une meilleure députée que chanteuse. Tiens, Philippe Bilger, est-ce que vous voteriez, par exemple, pour le Parti du Plaisir?
Mais comment refuser un tel programme? Franchement... Même si les vraies voix l'offrent chaque soir, mais pas au point de blablatage.
Moi, je vais vous faire une confidence, mon cher Philippe Rossi. Moi, j'ai bien flashé sur le parti anti-radar.
Ah oui. Pour le jeu de mots ou vraiment?
Non, pour le jeu de mots.
Ah bon, d'accord. Voilà, donc vous sous ce petit monde, vous retrouverez au premier tour de législative.
Absolument. Oui, avec les radars, oui, Marc.
La suppression du permis à points, c'était dans le programme d'Éric Zemmour. Hein.
Ah oui,
Zemmour,
oui, la suppression du permis à points. Vous êtes plutôt parti anti-radar ou parti du plaisir, ma chère Céline?
Alors moi, je conduis un tracteur, j'ai la trouille quand je conduis, je dépasse rarement. Donc non, finalement, moi, les radars, je m'en tamponne un peu.
D'accord, donc ce sera le parti du plaisir.
Mais c'est parce
pour
que
vous.
Je suis vraiment une buse, c'est-à-dire que les gens qui montent dans ma voiture prient. Moi, je crée des croyants.
Ah bon? Par rapport à vous, je pense que la bonne sœur du gendarme avec deux funesses conduit très bien, à ce que j'ai l'impression.
Mais oui. Mais on n'a jamais dit que le parti était un plaisir en ce moment.
Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Philippe Rossi. Les vraies voix, 17h58 à 18h30, notre grand débat. Accord PS-LFI, est-ce la fin de la social-démocratie? Vous êtes 85,1% à dire oui. On se retrouve tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de livres propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Céline Pina, fondatrice du mouvement Vivre la République, auteur de Ses biens essentiels, publié chez Bouquin Édition. Et Marc Varnaud, entrepreneur. À 18h30, notre grand débat. Accord PS-LFI-S, la fin de la social-démocratie. Vous êtes 84,9% à dire oui. Ça va les vraies voix?
Ça va.
Très bien.
Allez, un petit
ça
tour
va,
de table de Céline bien. Pina. C'est parti.
Les vraies voix Sud Radio.
Et vous voulez parler, ma chère Céline, de la fracture suédoise sur l'immigration?
Mais tout à fait. C'est un très intéressant édito de Sarah Daniel dans l'Obs. Qui raconte ce qui est en train de se passer en Suède. À savoir, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu énormément d'émeutes suite oui. à un mélange de Suédois et de Danois, un homme très controversé qui a fondé un parti d'extrême droite qui s'appelle la Ligne Dure et qui avait pour projet, pour montrer que le blasphème n'était pas interdit dans son pays, de faire brûler des Corans. Donc évidemment, c'est tout à fait autorisé, puisque justement le blasphème n'est pas condamné par la loi en Suède, mais ça pose de gros problèmes vis-à-vis de la communauté musulmane qui le vit comme un affront. Et ça a déclenché des jours d'émeutes extrêmement violents, puisque une partie de la communauté musulmane s'en est pris aux policiers qui essayaient d'intervenir, a détruit un certain nombre de symboles même de la Suède, donc les choses sont allées extrêmement loin. Et là-dessus, il y a eu un discours de la première ministre suédoise, qui est pourtant une femme issue de la social-démocratie et qui a reconnu que l'explosion de l'immigration s'était soldée par un échec de l'intégration et qu'aujourd'hui, il y avait en Suède deux populations qui ne vivaient pas ensemble, un séparatisme de fait et de très très lourds problèmes et arguant que les Suédois avaient été extrêmement naïfs. Et de fait, depuis les années 85 à peu près, la Suède a connu un rythme d'immigration beaucoup plus important que le reste des pays européens, au point que cette population extrêmement homogène est passée de 2% d'immigrés à 15%. Et aujourd'hui, ceux qui avaient été un modèle, notamment, rappelez-vous, toute la gauche se référait à l'expérience suédoise, est en train d'exploser sous nos yeux. Et les Suédois reconnaissent eux-mêmes que la partition de leur société est faite et qu'ils ont aujourd'hui très peu de réponses à proposer à ces tensions, ce qui est un tantinet inquiétant.
Philippe Bilger.
Les sensibilités libres et intelligentes se rejoignent parce que le point de vue de Céline Pina, excellemment exprimé, était aussi celui de Elisabeth Lévy il y a 3 jours dans un billet dans la matinale de Patrick Roger. Elle a abordé le même thème et Céline Pina vient de montrer à quel point il n'y a pas de hasard. Je suis un fan de la social-démocratie danoise et je trouve que les pays scandinaves ont une capacité d'appréhender le réel, même lorsqu'il paraît démentir leur idéologie, qui est très remarquable. On devrait avoir une gauche à peu près semblable en France, mais on s'en éloigne de plus en plus.
Marc Varnaud, on parlait du modèle suédois à l'époque, c'est plus franchement le cas.
Je crois que malheureusement, il n'y a plus beaucoup de modèles.
Non, c'est bien, plus près du micro.
Je crois que malheureusement, il n'y a plus beaucoup de modèles. Quels sont les pays européens dans lesquels il n'y a pas un sujet d'immigration? un sujet d'intégration, un sujet de fracture culturelle, idéologique, religieuse, appelez ça comme vous voulez. Je crois que c'est, malheureusement, c'est dans le cas dans tous les pays européens. Et c'est pas une spécificité française et encore moins suédoise. Malheureusement, c'est quelque chose de général sur lequel aucun pays jusqu'à présent n'a de solution. Et je crois que la solution est malheureusement relativement complexe, mais le problème est réel par contre.
Céline Pinal, mot de la fin.
Alors, pour vous dire ce que dit exactement la première ministre social-démocrate, une telle ségrégation a prospéré dans le pays de telle sorte que la société suédoise est désormais compartimentée en sociétés parallèles. Nous vivons dans le même pays, mais dans des réalités complètement différentes. Je trouve que ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que la social-démocratie a très longtemps pensé qu'on intégrait les gens uniquement par l'économie. Et la question de l'intégration culturelle n'était pas posée ou était vue comme une question raciste. Et en fait, on est en train de se rendre compte que l'intégration par l'économie, quand on ne transmet pas les valeurs, idéaux et principes d'un pays, ceux qui fondent sa légitimité à être et à agir, on arrive très vite à des formes d'impasse. Et c'est ce qui est en train d'expérimenter, malheureusement, la Suède, nous aussi. Et peut-être que simplement réinvestir la question de l'intégration culturelle, donc de l'assimilation, serait une véritable porte de sortie.
Philippe Bilger, mot de la fin ?
Non, mais qu'ajouter ? Je suis totalement d'accord avec Céline. Moi, ce qui m'angoisse, c'est qu'on fait en permanence d'excellents constats, de très lucides analyses, et je me demande comment les pays qui sont conscients de ces traumatismes pourront trouver un pouvoir politique prêt à avoir le courage pour, sinon les éradiquer, du moins les atténuer. C'est ça qui me fait peur, l'absence de courage politique.
Les vraies voix, 18h13. À 18h30, notre grand débat. Accord PS et LFI, est-ce la fin de la social-démocratie ? Vous êtes 84,9% à dire oui. Mais tout de suite, on va parler de la situation en Russie et en Ukraine. Dans 3 jours, ce sera le jour de la victoire. Certains disent que Vladimir Poutine pourrait annoncer une déclaration de guerre avec l'Ukraine. On va en parler avec Hélène Blanc, ancienne politologue spécialiste de la Russie au CNRS, co-auteur de « Bon baiser de Moscou », un livre visionnaire. Restez bien avec nous et les vraies voix sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Marc Varneau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que certains sont un peu inquiets puisque la Russie et l'Ukraine ne sont pas en guerre. Ben, comme il n'y a pas eu de guerre d'Algérie avec la France, hein, c'était les événements d'Algérie. Mais des rumeurs disent que Vladimir Poutine pourrait profiter du fameux Dien Pabiedi, le jour de la victoire, jour qui commémore la victoire contre l'Allemagne nazie, pour annoncer la déclaration de guerre à l'Ukraine. Nous sommes en compagnie d'Hélène Blanc, ancienne politologue spécialiste de la Russie au CNRS et co-auteur de « Bon baiser de Moscou », publié chez Ginko, un livre d'ailleurs visionnaire sur la situation actuelle. Bonsoir Hélène Blanc.
Bonsoir.
Le 9 mai, c'est le jour de la victoire. Beaucoup de gens disent que Vladimir Poutine pourrait annoncer la déclaration de guerre à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que ça fait partie des choses que vous avez prévues dans votre livre d'ailleurs ?
Non, quand même pas, parce que le livre a quand même été terminé en novembre 2021. Et que, comme vous savez, un livre, ça sort pas comme ça en 8 jours en France, oui. Malheureusement. Si vous en avez écrit, vous savez de quoi
oui.
Je parle.
Oui, oui.
Et donc, au bout d'un moment, on réussit à sortir le livre. Notre objectif, c'était de le sortir mi-février. Et si vous voulez, il y a énormément de choses, effectivement, dans ce livre, qui est une fiction, qui se passe en France, entre les deux tours de la présidentielle française, et qui oppose donc Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Voilà.
Et donc, est-ce que vous croyez que Vladimir Poutine, parce que officiellement, la Russie et l'Ukraine ne sont pas en guerre ?
Exact. D'ailleurs, c'est juste une simple opération, spets operata, comme ils disent, opération spéciale, que les armées russes ont entrepris en Ukraine. Et comme vous le savez, malheureusement, ce qui est très grave, je trouve, parce que à notre époque, le moindre mot peut déclencher non seulement des polémiques, mais des faits beaucoup plus graves. Je pense que c'est très grave que Vladimir Poutine mente à son peuple et à son armée depuis très longtemps. Parce que, si vous voulez, les Russes sont totalement désinformés par rapport à ce qui se passe. Ils ne savent absolument pas qu'il y a une guerre, une vraie guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, ils croient que c'était effectivement une opération spéciale pour désukrainiser les Ukrainiens et les dénazifier. C'est dur à dire, ça.
Dénazifier, oui.
Dénazifier, voilà.
Philippe Bilger.
Hélène Blanc, je vous rejoins avec beaucoup de modestie, mais je voulais vous demander, au fond, est-ce qu'il n'est pas présomptueux, pour le meilleur comme pour le pire, de chercher à comprendre le fort intérieur d'un Poutine qui, écartelé entre la défense des intérêts russes et son tempérament caractériel et pathologique, est difficile à analyser, à discerner. Est-ce que ça n'est pas la grande difficulté de la diplomatie civilisée de n'être pas capable de maîtriser des mécanismes qui lui échappent de la part de cette personnalité totalement atypique et essentiellement pour le pire ?
Hélène Blanc.
Effectivement, ce n'est pas facile, mais vous savez, moi j'ai personnellement commencé à travailler sur Vladimir Poutine depuis très longtemps, bien avant qu'il soit à la mairie de Saint-Pétersbourg, où vous savez qu'il a participé à des tas de choses, y compris à des affaires malheureuses qui ont... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a peut-être pas le temps, mais je veux dire, on voit bien le personnage quasiment depuis le début. Et si vous voulez, cet homme pense, je crois, que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde d'important, et notamment en Europe, il le prend contre lui, contre la Russie, mais aussi contre sa propre personne. Vous voyez le problème, c'est que dorénavant dans sa tête, la Russie, l'état de la Russie, l'avenir de la Russie est lié à sa personne. Et donc la Russie ne peut pas se passer de Poutine, et le peuple russe ne peut pas se passer de Poutine. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il doit gagner, il ne peut pas perdre, que ce soit à ses propres yeux, aux yeux des Russes qui peu à peu commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose de plus grave qu'une simple intervention, ne serait-ce que parce que les familles récupèrent les corps des soldats qui viennent donc du front. Et aussi, le problème, c'est que la Russie doit gagner cette guerre et l'Ukraine ne peut pas la perdre. C'est affreux, je veux dire, c'est un dilemme épouvantable. Parce que si l'Ukraine perdait cette guerre, eh bien nous serions, nous, à ce moment-là, en première ligne, étant donné qu'il n'y aurait plus de zone tampon entre la Russie et l'Europe. Et si par hasard ou par malheur, Poutine voulait après, en dépassant peut-être la frontière ouest de l'Ukraine, faire un petit tour du côté de la Moldavie, de l'Estonie, où il y a une très forte communauté de Russes et de russophones, à peu près 40%, voire dans un autre pays, des pays qui évidemment ne sont pas dans l'OTAN, eh bien, est-ce que nous pourrions l'en empêcher ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est terrible, c'est un dilemme épouvantable. Moi, j'aime infiniment la Russie, et j'aime infiniment le peuple russe, qui est un grand peuple, qu'on connaît mal d'ailleurs ici en France. On connaît encore moins les Ukrainiens, je dois le dire. Mais les Russes ne méritent pas qu'on les entraîne sans arrêt dans des catastrophes, qu'on les prive de leurs droits les plus fondamentaux, car c'est le cas aujourd'hui. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus voyager, ils ne peuvent plus parler, ils peuvent manifester, mais ça leur coûte très cher. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces gens, comme les Ukrainiens, ces gens-là sont tout à fait prêts pour avoir un vrai régime démocratique avec des contre-pouvoirs qui n'existent plus dans ce pays.
Céline Pina.
Est-ce qu'on peut pas être inquiet aussi, je lis parfois sous la plume de certains commentateurs, des critiques très acerbes contre l'armée russe, indiquant que cette armée qui nous faisait aussi peur se révèle finalement plutôt inefficace, plutôt mal organisée, essuie énormément de pertes, au risque parfois d'oublier que nous-mêmes sommes très faibles militairement et peut-être de prendre nos désirs pour des réalités et d'imaginer la Russie comme étant facile à battre, entre guillemets, alors qu'elle n'a peut-être pas montré toute sa puissance et qu'elle a peut-être encore quelques surprises, dirons-nous, en magasin.
Oui, si vous voulez, c'est vrai que l'armée russe, dont on voit les échecs là depuis le 24 février, et qui a été obligée de changer de stratégie puisqu'elle n'a pas réussi à prendre Kiev, donc maintenant qui se rabat sur le Donbass, si vous voulez, cette armée est composite, elle n'est pas homogène. Il y a bien sûr des militaires de carrière, il y a aussi des appelés qui savent à peine tenir une arme, qui n'aurait pas dû se trouver là, d'après Poutine, mais il paraît qu'il est très mal informé. Moi, je dis qu'aujourd'hui, d'après ce que nous voyons simplement par expérience sur le terrain, il ne s'agit pas de faire des plans sur la comète, l'armée russe, effectivement, semble ne plus être la seconde armée du monde. Maintenant, je suppose qu'elle a été très mal dirigée. Il y a un nouveau, un nouveau commandant en chef, maintenant, depuis pas longtemps, qui semble mieux reprendre l'armée en main. Donc on va voir ce qui va se passer. Et le combat du Donbass, c'est en somme un combat décisif qui va se livrer là, dans courant mai. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est vrai que la Russie a mis au point des armements ultra perfectionné ces dernières années, ça c'est vrai, mais le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est l'énorme corruption qui sévit dans l'armée et qui fait que malgré, si vous voulez, des budgets formidables, pharaoniques que l'on donne aux armées russes, eh bien, elle n'a pas été modernisée depuis pratiquement 30 ou 40 ans. C'est dommage.
Marc Varnaud.
Oui, je pense que d'abord, je pense qu'il y a deux armées russes hein, aujourd'hui. Il y a une armée russe qui effectivement défile le 9 mai tous les ans avec des armes ultramodernes, et puis il y a la vraie armée russe qui a pour moitié des chars qui ont effectivement 50 ans. Néanmoins, moi, j'oublie pas que c'est une puissance nucléaire et c'est un pays qui a une doctrine de l'utilisation du nucléaire tactique qui est quand même très particulière, puisque les Russes annoncent toujours que pour eux, l'arme nucléaire n'est pas qu'une arme de dissuasion. Donc, je pense qu'il faudrait quand même en tenir compte. Et lorsque l'on parle d'une possibilité de victoire des Ukrainiens, je crois qu'il serait plus raisonnable de parier ou de faire en sorte qu'on obtienne un statu quo qui permette à tout le monde de sortir la tête haute et d'éviter que cette guerre, qui aujourd'hui a des conséquences dramatiques, aussi bien humainement qu'économiquement, s'arrête le plus vite possible. Parce que de toute façon, je ne vois qu'un avenir très sombre si cette guerre devait continuer. Concernant l'extension du conflit éventuellement en Europe, je rejoins en partie ce qui a été dit. C'est vrai que la Moldavie, pour pas la nommer, hein, pas la Moldavie, c'est un maillon super faible. La Moldavie, on a plus de gendarmes mobiles en France que la Moldavie n'a de soldats. Hein. Ils ont 6000 soldats dans l'armée moldave. Ils sont pas dans l'OTAN, ils sont pas dans l'Europe.
Ça fait 5 régiments.
Ils ont la Transnistrie qui est à côté. C'est, entre guillemets, le ventre mou, la cible facile. Si Poutine veut effectivement nous envoyer un message, le message est facilement envoyable depuis la Moldavie. Enfin, un dernier point. Moi, je considère pas que ceux qui les battent en guerre sont forcément des fous ou des irresponsables. Je pense que c'est dangereux de considérer que Poutine est, entre guillemets, fou ou en partie irresponsable. Je pense simplement que quand on regarde l'histoire de la Russie, 6 guerres en 30 ans, ils ont toujours, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais fait des guerres de barbares. Les Russes n'ont jamais respecté les populations civiles ou les conventions quelles qu'elles soient. Donc je pense que cette guerre devrait s'arrêter rapidement afin qu'on retrouve un monde de paix.
Hélène Blanc, en 30 secondes.
Je suis tout à fait d'accord pour que la paix intervienne, étant donné les morts qu'il y a et toutes les destructions qui feront qu'on va mettre des milliards ensuite à reconstruire l'Ukraine. Mais je ne vois pas bien avec qui vous voulez faire ce statu quo. Vous voyez bien que Poutine n'est pas prêt pour ça. Les pourparlers sont au point mort. Et vous savez, les gesticulations concernant la guerre nucléaire, bon, je veux dire, faut en prendre et en laisser. Plus Poutine perdra sur le terrain, plus il ne menacera, en tout cas au moins en parole. Ça, c'est clair. Parce que son objectif, et il a pris ça dans un livre du 19e siècle chez son auteur favori, Ivan Iline, c'est de gouverner par la terreur. Il gouverne la Russie par la terreur et il aimerait bien nous gouverner aussi par la terreur. Donc ne soyons pas non plus trop naïfs et sachons qui nous sommes et que Poutine est le président d'un grand pays, mais que l'Union européenne, après tout, n'a pas non plus à rougir de ce qu'elle est. Elle a réussi à sauvegarder la paix pendant 75 ans et on va essayer de continuer, j'espère.
Vous avez un mot à dire, mais 5 secondes.
Je rappelle le mot de Clémenceau en 1919, il est plus facile de faire la paix que de faire la guerre. Et je crois que ça s'applique aujourd'hui mot pour mot.
Merci beaucoup Hélène Blanc, auteure d'un excellent livre « Bon baiser de Moscou » publié chez Ginkgo Édition, ancienne politologue spécialiste de la Russie au CNRS. Tout de suite notre grand débat, accord PSLFIS, la fin de la social-démocratie. Vous êtes 84,8% à dire oui, on en débat avec Franck Guéguenia, vice-président du Parti radical de gauche.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ils sont désormais rassemblés, mais peuvent-ils vraiment gagner?
Un pour tous et tous pour les législatives, ils sont
désormais... Le Conseil national du PS a validé hier soir l'accord pour les législatives passées.
Le PS a fini par dire oui dans la douleur, car c'est la fin d'une époque pour le parti.
Je demande aux Français de m'élire Premier ministre.
Votez pour moi, le programme j'en ai pas vraiment.
La fumée blanche est sortie hier soir, habemus accordum, entre la France insoumise et le Parti socialiste. Un accord validé par 62% des membres du bureau national du PS, mais pas franchement apprécié par tout le monde. Patrick Benucci, opposé à l'accord, estime qu'avec ce dernier, le PS n'est plus un parti de gouvernement, mais un parti à la remorque de toutes les radicalités. François Calfon a dit « Allez-vous exclure Carole Delga qui soutient des dissidents ?» Bernard Cazeneuve a claqué la porte et Stéphane Le Foll s'est dit, dès le milieu de semaine, prêt à mener la campagne des dissidents. D'où notre grand débat, accord PS-LFI, est-ce la fin de la social-démocratie? Avec nous, Franck Guéguenia, maire d'Éperon, c'est dans le Calvados, c'est président du, vice-président pardon, du Parti radical de gauche. Bonsoir Franck Guéguenia.
Bonsoir.
Est-ce que la social-démocratie en France, c'est fini?
Concrètement, oui, je pense que l'acte du décès a été... peut-être signé hier soir avec le reniement du Parti socialiste et le ralliement du Parti socialiste dans un cortège un peu saugrenu qui comprend LFI, Les Verts et le Parti communiste. Donc oui, je pense que la formation politique qui défendait ce projet n'existe plus. Maintenant, il y a des électeurs et puis surtout des Français qui veulent cette social-démocratie. Et le mieux, c'est encore que le Parti radical de gauche puisse incarner. Enfin, c'est notre vision des choses. Ce qui est assez drôle, c'est que pendant des années, pour pas dire des décennies, on a dit que le Parti radical était un fief d'opportuniste, qui était prêt à se vendre pour tout et surtout pour quelques postes. Et ben là, vous voyez que on reste une formation politique ancrée sur nos valeurs et on n'a pas été à Canossa, on n'a pas été à la soupe pour protéger des sortants ou conquérir de nouveaux territoires. Et on reste foncièrement ancré sur les valeurs européennes d'abord et puis surtout sur celles de la laïcité. Et aujourd'hui, malheureusement, LFI met un sacré coup de caniche sur ces deux aspects qui sont essentiels et pour lesquels on ne souhaite pas transiger.
Philippe Bilger.
Monsieur le Président, tout à l'heure, j'ai essayé de dire à quel point je ne trouvais pas un sujet de plaisanterie dans le lien qui s'est créé entre LFI et le Parti socialiste. La social-démocratie, même si je n'ai jamais été socialiste, est tout de même une famille politique qui m'a toujours intéressé, voire passionné. On peut dire que François Hollande, aussi imparfait qu'a été son mandat, représentait encore une forme de social-démocratie. Est-ce que vous ne croyez pas aujourd'hui qu'il existe encore des germes de social-démocratie dans le Parti socialiste, même exsangue après le désastre d'Anne Hidalgo, et que peut-être la grande faute de ce Parti socialiste, c'est d'avoir accepté de faire un lien avec LFI alors qu'il est dans une position d'absolue faiblesse et que donc, évidemment, il ne pourra pas sauvegarder ce qui lui restait peut-être encore de social-démocratie, je dirais en s'alliant avec un Mélenchon qui me paraît être plus social que démocrate.
Franck Guéguenia.
Oui, je pense que l'analyse... Alors, d'abord, je ne vais pas m'approprier un titre qui n'est pas le mien. Je ne suis que vice-président du Parti radical.
Ah mais oui, mais moi, je mets toujours au-dessus. Hein, c'est la règle.
Vous en remercie. Je vous en remercie. Ce que vous venez de dire, c'est exactement la réalité. On est un pays modéré. Même si, j'ai eu l'occasion de le dire, on est aussi un pays de révolution. Mais foncièrement, aujourd'hui, sur les valeurs qui sont les nôtres, et les Français attendent aussi... du changement, ça c'est indiscutable, ils l'ont exprimé dans les urnes, peut-être pas d'ailleurs comme on pouvait le croire, mais enfin, il y a une volonté de changement, mais ce changement, ce n'est pas aller d'un chaos vers un autre chaos. Et aujourd'hui, ça nous aspire vers cela, et on peut y être doublement inquiet. Moi, je rappelle que on ne peut pas faire une union comme vous le dites, lorsque nous ne sommes pas à des forces égales. Et aujourd'hui, c'est une absorption. Alors, cet après-midi, j'ai passé pas mal de coups de téléphone avec des responsables politiques d'autres formations qui me disent « Non, mais chacun restera dans sa crèmerie une fois qu'on sera élu. » Mais qu'est-ce qu'il en sera à un moment où, admettons, la majorité soit donnée à LFI qui a négocié un accord pour être sur un accord où ils seront les plus forts dans cet accord. C'est-à-dire qu'ils auront la majorité absolue si les suffrages leur donnent raison. Et vous imaginez que lorsqu'il faudra négocier des pactes, des accords internationaux, ce qu'il en sera. Quelle sera la voix des Verts, des communistes, qui auront certainement des élus, mais qui seront ultra minoritaires dans une majorité. Ce qui veut dire que l'on va confier quand même les rênes à Jean-Luc Mélenchon, probablement, sans avoir une seule lisibilité sur son programme. Et aujourd'hui, le reniement est un reniement qui se fait essentiellement pour des postes et pas pour des projets, pas pour un projet et pas pour des valeurs. Et ça, le Parti radical de gauche n'a pas voulu céder à ces sirènes.
La parole est à Céline Pina, ex-socialiste.
Mais le PS n'a pas voulu prendre sa perte. Et parfois, pour se reconstruire et grandir, il faut accepter de perdre. Accepter de perdre et savoir comment et pourquoi on se reconstruit. Là, la reconstruction est impossible puisqu'effectivement, il y a un reniement pour sauver des postes de personnes qui n'incarnent plus qu'eux-mêmes, qui ne portent pas un projet qui les dépasse ou qui soit plus grand qu'eux. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que cet accord se fait après que Jean-Luc Mélenchon ait montré sa vraie nature. On ne peut pas se dire démocrate quand, face à des résultats où on a perdu et authentiquement perdu, on explique qu'on va faire un troisième tour dans la rue et que si on n'obtient pas ce que l'on veut, on va inventer. Alors maintenant,
c'est notamment Clémentine Autain qui l'a dit.
Oui, et maintenant on crée un soi-disant poste de Premier ministre qui serait un troisième tour de la présidentielle, ce qui c'est à peu près n'importe quoi. On a parlé aussi, qu'est-ce que c'est que la social-démocratie ? C'est l'attachement à l'État-providence. Et l'attachement à l'État-providence repose sur un certain nombre de principes, dont l'égalité entre les hommes, que entre les êtres humains, que aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon s'apprête à nier complètement. Qui sont les alliés de Jean-Luc Mélenchon ? Rappelez-vous de toutes ces injonctions à voter Mélenchon qui tournaient dans les mosquées, qui étaient portées par les islamistes, qui ont abouti d'ailleurs à ce qu'il y ait un vote communautariste massif en sa faveur. Vote communautariste qui est en lui-même une rupture dans l'égalité, puisqu'on vote en fonction de son appartenance ethnique et religieuse et plus du tout parce qu'on se reconnaît dans la nation et le peuple français. Donc vous avez une somme de ruptures qui s'accumulent et un parti socialiste qui fait semblant de ne pas les voir et qui, je crois, sombre dans l'alliance parce que comme il n'a rien à dire au monde et qu'il n'est même pas sûr d'être capable de se reconstruire, aujourd'hui, il préfère encore se vendre. C'est extrêmement malheureux.
Franck Guéguéna.
Oui, l'analyse, là aussi, est pertinente. Moi, je reviens sur l'État-providence. L'État-providence, c'est protéger. C'est ça. Aujourd'hui, on n'est pas sur la protection, on est sur une domination, en plus sur des chiffres qui sont erronés. Notamment, par exemple, si on part sur le principe de la retraite à 60 ans. On s'est rendu compte que les deux leaders de la France insoumise, sur les différents plateaux de télé, étaient bien en peine d'expliquer qu'on maintenait les 60 ans tout en ayant les 40 ans d'annuité. C'est pas possible, c'est un problème de calcul. Et lorsqu'on démonte chaque dossier, notamment sur le nucléaire, ils ont fait une alliance qui était contre nature. Les communistes sont par nature, quant à eux, porteurs du nucléaire. Qu'est-ce que ça va donner dans une assemblée nationale ? Et ça, ce sont les vrais projets fondamentaux. Bon, il ne faut pas confondre des alliances locales sur des territoires, sur des projets locaux. Et lorsqu'on veut faire une culture de majorité au niveau national, on est sur un autre volet et on est sur des vrais projets fondateurs que sont les accords internationaux. La Russie, ça doit clarifier cette histoire de la bâton aider l'Ukraine demain avec une majorité LFI. On peut s'interroger. Va-t-on quitter l'OTAN ? On peut s'interroger. Et là, c'est bien de la responsabilité de nos gouvernants et notamment des parlementaires dans le cadre d'un accord. Et puis, vous l'avez dit, on passe outre cette loi des urnes qui fait que demain, il y aura une majorité qui sera pas celle qui sortira justement des urnes. Mais on ne sait pas exactement comment on nomme ce Premier ministre. Ce n'est pas une élection, un Premier ministre. Alors là, c'est un coup de com'. Il faut avouer que Mélenchon est particulièrement bon dans cette communication, mais on doit à un moment avoir ce principe de réalité. Et ce principe de réalité, c'est celui que nous souhaitons porter au sein du Parti radical de gauche, notamment en lançant cette bannière commune qui est réelle. La République, l'environnement ou l'écologie, évidemment l'Europe et puis la laïcité. Et ça, c'est notre bannière et on essaye et on souhaite que tous les acteurs de ce centre-gauche, qui du coup risquent d'être poussés dans les bras de Macron par la réaction et la radicalisation de ce mouvement, viennent vers nous pour porter une alternative.
Les vraies voix, 18h42, notre grand débat à Corps PSLFI, est-ce la fin de la social-démocratie ? Vous êtes 84% à dire oui, on se retrouve tout de suite. C'est Marc Varneau qui va parler avec Franck Guéguenia et avec les auditeurs au 0826-300-300.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Notre grand débat à Corps PSLFI, est-ce la fin de la social-démocratie ? Vous êtes 84,1% à dire oui. Avec nous, Franck Guéguenia, maire d'Éperon, c'est dans le Calvados et vice-président du Parti radical de gauche, Marc Varneau.
Alors, vaste sujet. D'abord, je pense que cet accord d'extrême-gauche, hein, soyons clairs, appelons les choses par leur nom, est basé sur une énorme escroquerie d'interprétation des résultats des présidentielles, puisque je rappelle que M. Mélenchon était à 11% le 14 mars et un mois après à 21%. Et on fait croire aux Français qu'il y a 10% des Français qui sont devenus d'extrême gauche en l'espace d'un mois, alors qu'en réalité, c'est l'érosion mécanique des autres candidats de gauche qui ont, entre guillemets, choisi le vote utile dès le premier tour, exactement le même phénomène qu'on a connu avec Emmanuel Macron. Et donc ce pouvoir, ce poids de Mélenchon à 21%, me paraît complètement dingue. La suite, les accords, ils sont aussi complètement dingues. Moi, je pense que le PS a vendu son âme. Et c'est vrai qu'ils ont, ils ont épousé Castro et Chavez, qui sont les modèles de M. Mélenchon. Et ils ont sans doute épousé indirectement aussi, en tout cas pour les Français, beaucoup de ses idées. Moi, je pense que cette tambouille électorale indigeste, elle risque quand même de se payer très cher dans les urnes. Je m'explique. Est-ce qu'un électeur socialiste, pardonnez-moi, normal, lorsqu'on va lui donner le choix à gauche de voter entre l'extrême-gauche et l'extrême-gauche, le candidat, entre guillemets, qui aura été adoubé dans l'accord et un candidat éventuellement LFI, est-ce qu'il va aller voter pour le candidat de la France insoumise ou il va voter pour le candidat d'Emmanuel Macron ? Je vous laisse répondre, mais à mon avis, il n'y a aucun doute. De transformer des électeurs, ça n'existe pas. On ne va pas transformer un électeur socialiste en un électeur d'extrême-gauche. Ce n'est pas possible. Autant l'extrême-gauche pourrait voter pour un socialiste, mais l'inverse est impossible, et encore heureux. Donc je pense que dans les résultats législatifs, on va avoir des surprises, parce que les mécaniques et les distributions de sièges à l'Assemblée, ben je demande à voir.
Franck Guéguenia.
Oui, je pense que là encore, l'analyse correspond exactement à une situation donnée. La situation donnée, c'est qu'il y a eu un front, un moment, qui s'est exprimé contre Macron et contre le Front National. Et ce front a été porté à l'instant T par Jean-Luc Mélenchon. Et ça ne veut pas dire que les 22% qu'il revendique sont des voix mélenchonistes. Il y a des gens qui voulaient tordre le bras à un duel déjà précité, qui était Le Pen-Macron. C'est tout. Et à partir de là, il y a une transposition sur les législatives qui est une transposition malheureuse, parce que l'illusion est belle, certes, mais ça reste foncièrement un mirage. Et je pense, d'abord, qu'il y a énormément de déçus. Là encore, j'ai fait un tour d'horizon en Normandie. L'accord national plaque une situation qui est ubuesque. Je vais vous donner un exemple. Les Verts se retrouvent dans le Calvados avec une circonscription où ils n'avaient pas de candidate. Par contre, eux avaient tout misé leur poids sur une circonscription qui vient d'être donnée à LFI, qui sociologiquement est aux antipodes des habitants et de l'électorat. Je veux dire que, alors que Macron ne lui en déplaise, mais lorsqu'il l'avait fait en 2017, il l'avait fait habilement. Il y avait une corrélation entre la sociologie des candidats et les élections. Philippe. Et l'électorat. Voilà.
Ouais, Philippe Bilger voulait réagir.
Oui, rapidement, Marc Varnaud tout à l'heure a indiqué à quel point le vote utile allait jouer aux législatives et il rejoint une, je crois, un propos qui a été prêté au président de la République qui disait que qui se réjouissait de cet accord délétère entre LFI et le PS parce que il considérait que beaucoup de gens allaient voter pour la République, j'allais dire pour Renaissance, pardon, oui. J'allais redire la République en marche. Et deuxième élément pour répondre, pour féliciter monsieur le maire, tout à l'heure il a indiqué que on allait passer du chaos au chaos et j'ose dire, pour tomber dans une plaisanterie discutable, que le chaos des ordres, en effet, peut se voir succéder à un chaos de boxe. C'est évidemment ce qui va se passer.
Vous pouvez répondre à l'uppercut de Philippe Bilger, Franck Guéguenia.
Oui, bien sûr, mais je pense que ce qui est bien vu, c'est qu'effectivement, cette alliance saugrenue, ce ralliement va entraîner une part des sociaux-démocrates à voter Macron spontanément et en disant, voilà, l'offre politique n'y est plus, je vais vers celui qui est le plus proche de mes idées. C'est pour ça que nous, au sein du Parti radical de gauche, on s'efforce à présenter des candidats pour justement préparer une alternative et permettre aux électeurs d'avoir un choix qui ne soit pas entre le chaos et le désordre.
Un mot court, Céline, voilà, et un mot court, Marc.
Il sera très intéressant de regarder la question de l'abstention sur ces législatives, parce qu'on oublie tous une dimension dans le vote Macron, qui est que c'est un vote de peur de l'avenir. Et donc, on préfère encore même une situation qu'on ne maîtrise pas et quelqu'un que l'on n'aime pas beaucoup, mais qui paraît garantir un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, l'aventure, c'est la démarche de Mélenchon. Donc, il faut regarder vraiment, je pense qu'il y aura un fort taux d'abstention. Et effectivement, je pense, beaucoup de reports vers un vote utile Macron.
Marc Varnaud ?
Je pense que s'il faut regarder le Mélenchon, il faut peut-être regarder aussi et surtout les circonscriptions qu'ils ont aujourd'hui, le nombre de députés, où ils sont élus et par qui. Et c'est les territoires perdus de la République. Voilà le fond de l'électorat de M. Mélenchon. Et je ne suis pas certain que ces territoires perdus de la République, demain, représentent 22%.
Merci beaucoup, Franck Guéguenia, maire d'Éperon, vice-président du Parti radical de gauche. Un plaisir de vous avoir eu pour la première fois dans Les Vraies Voix. Verdict sur Twitter, accord PSLFI, est-ce la fin de la social-démocratie ? Vous êtes pile poil 84% à dire oui.
Les Vraies Voix Sud Radio.
Bonsoir Philippe Rossi.
Bonsoir.
Un festival de la BD ce week-end au Parc Spirou.
Et oui, tout à fait, c'est la deuxième édition de ce festival qui réunira alors demain et dimanche une vingtaine d'auteurs de BD au programme des dédicaces de dessins en direct. Il y aura également des animations, des quiz, des masterclass et également des rencontres avec des membres de la rédaction du journal Spirou. Hervé Lux, directeur général du Parc Spirou, est avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Lux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Alors, Hervé Lux, ce festival avait eu lieu en septembre dernier et ce fut un succès. Hein.
Ah oui, vraiment, c'était un super moment sur le parc, un vrai succès. Les visiteurs étaient au rendez-vous et les auteurs étaient super contents de pouvoir passer un moment dans le parc avec leur public finalement. C'était top.
Ouais. Et alors du coup, on remet ça ce week-end et c'est une bonne nouvelle. C'est aussi une bonne manière de découvrir le parc Spirou. On va y venir dans un instant. Qu'est-ce qu'on va retrouver donc demain et dimanche lors de ce festival au parc?
Alors on va retrouver une quinzaine d'auteurs qui vont être sur le parc, bien entendu des auteurs qu'on connaît et puis des auteurs à découvrir, hein, bien sûr. Donc on a Goum qui a publié Comme des bêtes, on a Arthur de Pince qui chez nous a une belle attraction qui s'appelle la Tour Zombilenium, hein, donc qui est l'auteur de Zombilenium évidemment. On va partager avec eux des moments très sympas. Il y a tout un programme d'animation, bien sûr. Il y a des dédicaces insolites, des animations, des quiz, des memory parks, des battles de dessin, ça va être top, quoi.
C'est également une bonne manière, évidemment, de découvrir le Parc Spirou, je le disais. Alors, qui est tout jeune, hein, le Parc Spirou,
il a ouvert ses portes. On offrira bientôt, oui, sur Sud Radio des places pour le Parc Spirou. On a dévoilé l'information, c'est Bruno Dubois qui vient de me l'envoyer, notre directeur d'antenne.
Alors très bien, on vous offrira des places justement pour le parc Spirou qui a ouvert ses portes en 2018. C'est un parc tout jeune, Hervé Lux.
Eh oui, c'est un parc tout jeune qui aujourd'hui a bien grandi, puisque pour nous c'est notre cinquième saison. On a fait beaucoup d'investissements. On a investi dans des nouveautés sur le parc. Aujourd'hui, on a des univers qui sont extraordinaires, puisque finalement À travers ce festival de la BD, on va allier les univers de la bande dessinée et les auteurs et les publics qui vont pouvoir évoluer à travers tout cette, toute cette magie, entre guillemets, et pouvoir découvrir finalement l'essence même de la création de ces bandes dessinées.
Hervé Lux, vous savez que c'était Philippe Bilger, quand il était avocat général, qui avait requis dans le procès des Dalton.
Ah ok,
c'est vrai. C'est vrai.
Plus sérieusement, je me fais régulièrement remettre dans mon véritable âge lorsque je dis que je suis relativement allergique à la bande dessinée, parce que malheureusement, j'ai pris des habitudes anciennes de lecture. Est-ce que je devrais faire un effort pour lire la bande dessinée et considérer qu'elle est en effet de la véritable littérature ou pas ?
Ah oui, mais en fait, c'est la bande dessinée, elle est génératrice d'histoires, c'est infini, c'est des univers fabuleux. Et oui, c'est de la littérature, bien entendu. Et ce qui est extraordinaire sur le parc, c'est que c'est intergénérationnel. On a des héros qui datent, hein, bien entendu, mais on peut retrouver des enfants qui sont complètement émerveillés sur des bandes dessinées de Spirou ou de Super Groom. À travers Fantasio, le Marsupilami, et également la découverte de nouveaux auteurs, comme la boîte à musique notamment, qui est assez fabuleuse. Donc globalement, c'est de la littérature, bien sûr.
Céline Pina, Marc Varnoux, vous aimez
bien. Vos lumières, cher monsieur.
Vous aimez bien Lucky Luke, le Marsupilami, Gaston Lagaffe.
Eh oui, ils sont tous là. Ils vous attendent.
C'est mon époque, c'est ma génération.
Ah ouais, non mais...
Vous étiez comme moi, Marc Varnoux, Gaston Lagaffe, vous étiez fan.
J'adorais. Mais je parlais de ça à mon fils qui a 20 ans, il ne sait même pas ce que c'est.
Ah oui, il faut lui faire lire, Céline Pina.
Vous savez, l'été, il y avait des gros albums qui paraissaient, gros albums de Spirou. Et donc du coup, il y avait des histoires qu'on avait en entier. Parce qu'on en achetait toujours. Pour moi, on partait en vacances avec le gros album de Spirou, mais j'avais jamais la fin de certaines histoires parce que je sais pas pourquoi. En revanche, mes parents continuaient pas dans l'année, donc j'étais habitée par ça. Et puis, il faut voir qu'il y a eu des nouveaux albums de Spirou où on amène Spirou, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, qui sont
superbes.
Voilà, qui sont magnifiques, intelligents, d'une grande finesse. Et moi, j'adore la BD. Et bravo et merci pour tout ce que vous faites.
Et je voudrais faire une remarque, comme Marc Varnoux est aussi un fan de Gaston Lagaffe. J'adorais le nom qu'avait donné Gaston Lagaffe à son hérisson. Vous vous rappelez comment il l'avait appelé ?
Non.
Qui s'y frotte.
Merci à vous, directeur général du Parc Spirou. Merci à vous.
Et on fera gagner des places pour le Parc Spirou. Merci beaucoup. Tout de suite, nos deux vraies voix du jour, Fred Bugard et Gérard Dosserre, ils veulent parler du premier problème de notre premier débat, la multiplication des vices de procédure. La loi donne-t-elle trop de droits aux délinquants ?
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ils sont restés avec nous, de vraies voix, mais les micros sont à nouveau ouverts. Vous avez entendu sa voix, Marc Varnoux, entrepreneur, et comme elle n'a pas eu le temps de répondre, n'avait pas entendu la sienne. Céline Pina, fondatrice du mouvement Vivre la République et auteure de « Ces biens essentiels » publié chez Bouquin Édition, nos deux vraies voix du soir. Allez, on va mettre... Il y a de bons breuvages dans ce coin-là. Bonsoir Fred Dugard.
Bonsoir.
Quand je parle de bon breuvage, je pense Costière, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? L'abus d'alcool...
Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça.
Il y en a tellement qu'ici, on pourrait vite finir alcoolique.
Alors, la formule, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et direction, alors là, il y a aussi d'excellents breuvages en Bourgogne. Bonsoir Gérard Dosserre.
C'est Gérald, bonsoir.
Gérald, pardon, il y a eu l'erreur de frappe d'Auxerre. Bonsoir, là, le Bourgogne, c'est très bien aussi. Alors, le Gard, c'est 30 Auxerre 89. On va commencer donc avec Fred. Vous voulez tous les deux nous parler de notre premier débat, vous savez, sur les vices de procédure, multiplication des vices de procédure. La loi donne-t-elle trop de droits aux délinquants ? Et vous êtes sur Twitter, 95,6% à dire oui. Vous êtes d'accord avec ça, Fred ?
Ben non, pas du tout. Je pense pas que ce soit en fait des vices de procédure qui soient en fait en faveur des... Si, c'est en faveur des délinquants. Mais je pense qu'il doit y avoir quand même un souci parce que l'administratif, ça a toujours été comme ça. Les avocats savent faire leur travail et je doute fort qu'en fait, ils soient plus mauvais aujourd'hui qu'hier dans leur procédure. Je pense peut-être qu'il faut chercher, il faut faire une enquête parce que peut-être que c'est une histoire de surpopulation carcérale qui fait que les tribunaux cherchent la petite bête et disent voilà, vice de procédure, on relâche. C'est très dramatique.
Si ouais, là, c'est, parce que là, quand on voit les cas que citait Marc Varnaud tout à l'heure, notamment des preneurs d'otages avec 20 ou 30 condamnations, je crois, si on les remet en liberté au nom de la surpopulation carcérale, faudrait peut-être mieux remettre dans ces cas-là en liberté des personnes qui sont en prison pour fraude fiscale, ou parce qu'il y en a, faut quand même le dire, parce qu'au moins, ils sont infiniment moins dangereux pour la société. Gérald, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il y a vraiment un problème? La loi donne trop de droits aux délinquants, et vous pensez que ça peut aider à résoudre la surpopulation carcérale?
Alors, moi, je suis d'accord avec l'auditeur. Hein, Fred. Déjà, il y a plusieurs problèmes. C'est vrai qu'il y a une surpopulation carcérale, puisqu'il y a des petits délinquants qui sont mis en prison alors qu'on pourrait leur faire faire des travaux d'intérêt général. Je pense que c'est déjà très intelligent. Par contre, effectivement, il y a des gens qui ont des condamnations, mais c'est même plus un dossier qui pourrait ouvrir un journal, tellement que c'est nombreux, et on les remet en liberté pour des défauts, effectivement, de procédure, parce que vous avez des avocats qui savent très bien manier la langue avec les lois, les décrets, etc. Et je trouve ça scandaleux, puisque en plus, ce qui se passe, on ne respecte plus l'uniforme. L'uniforme n'est plus respecté. On n'a plus peur de la police, on n'a plus peur d'un gendarme, on fait tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que la délinquance, elle est de plus en plus forte, parce qu'elle sait très bien que de toute façon, elle ne sera pas condamnée. Un mineur n'ira pas en prison. C'est très rare. Oui. À moins qu'il ait fait un délit gravissime.
C'est plutôt un crime hein, pour qu'un mineur aille en prison. Hein.
Voilà,
tout. Ou alors fait. C'est le 45e délit. Moi, j'ai vu le cas, c'était il y a 3-4 ans déjà, d'un policier qui témoignait. Il avait arrêté un mineur, et pour des cas vraiment graves, vol avec violence, extorsion de fonds, coups et blessures. Je crois qu'il en était à 65e ou 67e arrestation. Il n'avait pas passé une minute en prison. Donc là, vraiment, pour aller en prison quand on est mineur, c'est que c'est vraiment hyper grave. Marc Varnaud, qu'est-ce que vous voulez répondre à Fred et à Gérald?
Il y a plusieurs sujets, mais je pense que le principal sujet aujourd'hui, c'est la complexité et l'alourdissement de la procédure, des procédures pénales, qui font qu'en réalité, les policiers croulent sous la paperasse, et les juges, qui sont toujours totalement débordés, et il n'y a absolument pas de budget, font qu'on est dans une équation qui provoque en réalité les libérations des
dont
criminels.
On a parlé.
Oui, parce que comme on n'a pas adapté la procédure, et qu'on dit à un juge, voilà, quel que soit le dossier, flagrant délit ou pas, là on a parlé effectivement le cas extrême, prise d'otage, flagrant délit, 20 cas au casier, vice de procédure, il est libéré. Eh bien, quel que soit le cas de figure, le juge, s'il ne le voit pas dans les 20 jours, eh bien il est automatiquement libéré. Donc là, il y a vraiment ce grand écart entre la réalité de l'erreur, pardonnez-moi, de la justice ou du procès-verbal du policier, et l'absence de sanction, pour pas dire la libération d'un criminel qui n'a pas la présomption d'innocence, il a été pris en flagrant délit. Donc on tombe dans des extrêmes absolus. Je pense que la surpopulation carcérale est malheureusement pas du tout à mentionner dans ce débat,
dans ce
parce
cas,
que
oui.
le problème il est aujourd'hui juridique et technique. C'est-à-dire que en France, depuis 20 ans, on a une obsession, c'est augmenter toutes les procédures. Tous les codes de voilà, on est passé de 4000 à 9000 articles dans le code du travail. On est passé à 400 000 normes. La procédure pénale, elle a doublé. On adore ça. Mais derrière, ça pose des vrais problèmes. Et là, on parle d'une des conséquences qui est vraiment dramatique.
Céline Pina.
La réalité de la non-adaptation en fait des procédures à l'état de la justice est une réalité. Le véritable problème, c'est que ce n'est jamais pris en compte. C'est-à-dire qu'on est très souvent dans des analyses théoriques. Voilà quel principe il faudrait mettre en avant. On est dans la défense des droits individuels, etc., etc. Et on ne pense jamais à compenser avec le réel. Or, dans la situation dans laquelle est la justice, on aurait besoin de rappeler que son rôle, bien entendu, c'est d'éviter que des innocents aillent en prison. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais c'est aussi de protéger la société. Et à un moment donné, quand l'exploitation des vices de procédure entraîne la libération de criminels notoires et avérés, on peut aussi se demander si par simple proportionnalité, on devrait sanctionner les vices de procédure, pourquoi pas, mais peut-être pas en annulant toute la procédure ou en libérant le criminel, peut-être en trouvant d'autres systèmes qui permettent de montrer qu'on est attentif au respect des droits de chacun, sans en arriver finalement à remettre en liberté des gens dangereux pour la société. Et c'est peut-être cet aspect-là qui a été complètement oublié. Aujourd'hui, on parle beaucoup de droits des victimes, beaucoup de droits des délinquants, et on oublie finalement le droit de la société à être protégée dans son ensemble.
Justement, Fred, qu'est-ce que vous pensez ? Céline Pina avait émis cette thèse tout à l'heure lors du débat. Marc Varneau était d'accord. À peu près tout le monde était d'accord, d'ailleurs. Plutôt que de remettre en liberté, on prenait le cas du preneur d'otages dont avait parlé Marc Varneau, ce qui est, à mon avis, bon, c'est l'avis de tout le monde dans ce studio complètement surréaliste, qu'il ne faudrait pas faire ben, selon la gravité des faits reprochés, même si, je le rappelle, c'est Carbon 2-16 qui l'avait dit, tant qu'on n'est pas définitivement condamné, on est présumé innocent. Vous êtes d'accord avec ça, Fred ?
Bah écoutez, bien sûr, oui, je suis d'accord sur le fait qu'à partir du moment où on n'est pas connu, on est présumé innocent.
Non, mais je parlais d'adapter la libération à la gravité des faits reprochés.
Oui, moi, ce que je serais pour, c'est pour créer des prisons comme ça. Au moins, personne ne déroge à sa peine et tout le monde exécute la sanction qu'il mérite. Donc, du coup, moi, c'est pour créer, balancer des milliards pour des causes, je ne sais lesquelles. On embauche des fonctionnaires, on crée des prisons. Voilà. Moi, c'est aussi pire que ça.
Gérald, vous êtes d'accord avec ça qu'il faudrait adapter la libération s'il y avait un vice de procédure ? Un vice de procédure, ça peut exister dans plein de cas de figure, hein, à la gravité des faits reprochés.
Alors la gravité, bien évidemment, la proportionnalité. Alors je pense qu'il faudrait revoir toutes les procédures, puisque plus un acte est grave, pour moi, plus il devrait être sanctionné. C'est clair. Et là, effectivement, il y a tellement de vices de procédures. C'est complètement démentiel. Je vais vous donner un exemple, hein. Ça va être très rapide. J'ai été agressé il y a 5-6 ans. Oui. Mais vraiment agressé par deux personnes. Malheureusement, j'ai eu le dessus, j'en ai envoyé un à l'osso.
D'accord.
Parce que, les gars voulaient me dépouiller ma voiture. Donc moi, je me suis défendu, j'en ai envoyé un à l'hôpital. Eh ben, je peux vous dire qu'heureusement, que j'ai pris un avocat, j'allais en prison parce qu'il portait plainte contre moi. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui colle pas. Mais je peux vous dire que l'acte, c'était point américain, c'était bombe lacrymo, c'était un truc de fou. Oui. Et je me suis défendu parce que j'ai eu la possibilité de le faire. Maintenant, pour moi, un acte comme ça aussi grave, il y a pas photo, quoi.
Parce que les types ont osé porter plainte contre vous.
Mais bien sûr.
Et est-ce qu'eux, ils ont été condamnés pour avoir tenté de vous extorquer votre voiture?
Alors moi c'est parce que j'ai frappé en fait en me défendant, parce que eux ils m'ont agressé. J'ai eu de la chance, hein. Je suis 1m85, je fais 100 kilos et oui. j'ai pratiqué un peu des arts martiaux, mais je veux dire que j'aurais pas eu, je sais pas ce qui serait passé si j'avais pas pu me défendre. Et en fait j'ai été voir après, j'ai été convoqué quand même, hein. Je suis passé devant un tribunal, etc., quoi. Et heureusement j'ai eu
bon avocat.
S'est terminé. Voilà, j'ai pris un avocat, c'était terminé par mon lieu, mais je peux vous dire que vous posez des questions, quoi. Vous êtes agressé, alors vous passez de victime à bourreau, soi-disant. Ah bon ? C'est nouveau.
Mais c'est hallucinant.
C'est pour ça que ça déconne, quoi.
Marc Varneau.
C'est hallucinant, mais pour revenir sur le sujet de départ, moi je crois que la justice devrait se concentrer sur son travail, et qu'aujourd'hui, c'est plus le travail de la justice de tergiverser sur une affaire, par exemple, de prise d'otage avec un auteur qui en est à sa 20e récidive. Je crois que dans ce cas-là, on doit avoir d'abord une peine plancher obligatoire et d'avoir une préventive obligatoire, et que si le juge dépasse d'une journée le délai de présentation, en aucun cas, il devrait être libéré. Je crois que le travail de la justice...
Ou même d'une semaine. Hein.
Oui, enfin, je dis un jour, parce que c'est le cas, un jour.
Oui.
Mais voilà, je crois que le travail de la justice, c'est de se pencher et d'investir ses moyens et ses hommes sur les cas qui, entre guillemets... le mérite vraiment. Ce qui est incroyable dans toutes ces affaires-là, c'est que ces vices de procédure, ils bénéficient à des gens qui sont des multirécidivistes. Et quand je voyais que certains avocats, on ne va pas les citer, mais dans le sud de la France, sont devenus spécialisés, c'est devenu une spécialité, se sont spécialisés dans le vice de procédure. Je lisais récemment qu'un avocat à Nice en est sa 48e libération de détenu pour vice de procédure. Enfin, je veux dire, on marche quand même complètement sur la tête.
Le mot de la fin, Céline Pina, en une minute.
Oui, peut-être de dire quand même qu'à côté de ces vices de procédure qui permettent de libérer des criminels, on a aussi parfois des désignations d'actes qui sont à proprement parler scandaleuses. Je pense à l'histoire du policier sur le Pont Neuf qui, alors qu'il est en état de légitime défense, oui, se voit qualifié par des juges d'homicide volontaire, ce qui présuppose une préméditation, ce qui est complètement aberrant, sans que cela ne fasse réagir réagir personne. Et je pense qu'il y a peut-être au moins une faille dans la procédure qui est que lorsque vous êtes juge, vous devriez aussi être comptable puisque votre métier est le droit, des erreurs de droit que vous faites. Or, on le voit, les juges ne sont jamais sanctionnés là-dessus. Je pense par exemple à l'affaire Doutreau qui a accumulé un certain nombre d'erreurs.
Le juge Bourgois a même été promu.
Voilà. Et donc, à un moment donné, il y a peut-être des choses à revoir au niveau du fonctionnement de la justice, en étant simplement pragmatique et pas idéologue.
Merci beaucoup, on arrive au bout. Merci beaucoup Marc Varnon, entrepreneur, Céline Pina, fondatrice du mouvement Vivre la République, auteur de Ces biens essentiels, publié chez Bouquin Édition. Merci à Fred Dugard et à Gérald Dossert. On sort les crampons, le ballon ovale. Salut Alexandre Priam.
Salut les Révois.
Alors là, ce soir, c'est l'avant-dernière, pas l'antépénultième, l'avant-dernière journée de Pro D2. Et ça va être, comme on dit, chaud patate.
Ouais, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux hein, pour la bataille pour le top 6, pour la bataille pour le top 2 aussi, et puis pour le maintien. On a 6 rencontres à 19h30, Mont-de-Marsan, Grenoble, pas d'enjeu. Montauban, Narbonne, match très important pour les Montalbanais. Narbonne est d'ores et déjà relégué en national. Rouen, Béziers, là, match très important pour le maintien pour les Rouennais. Alors qu'en même temps, Bourg-en-Bresse reçoit Colomiers. Là, il y a double enjeu. Colomiers pour le top 6, Bourg-en-Bresse, eh bien, pour le maintien. Il y a Van Aurillac, Agen-Nevers, Oyonnax, Aix-en-Provence. Et ça, c'est le Oyonnax-en-Provence. C'est à 20h45.
Et ça se passe en direct avec toi, mon cher Alexandre, sur Sud Radio. Sud Radio, la station du rugby. Mais tout de suite, on va parler de vos sous. Stéphane Moller, Philippe Rossi, conseil de famille.